RMC, entre les poteaux,
Roxane Lacusca.
Salut tout le monde, vous l'avez suivi dans les précédents épisodes de ce hors-série sur le rugby à 7. Les Bleus ont remporté le tournoi de Los Angeles 19 ans après leur précédent sacre à Paris. Et pour revenir sur cette finale riche en émotions, on accueille Arthur Jean, l'un de nos spécialistes rugby à RMC. Salut Arthur.
Salut Roxane, salut tout le monde.
Les Bleus, on le disait, qui ont marqué un grand coup à Los Angeles à quelques mois d'une échéance de la plus haute importance. L'occasion justement d'envoyer un signal fort aux concurrents et prendre de la confiance à 5 mois des Jeux de Paris. Alors forcément, on voulait en savoir un peu plus sur la façon dont on a vécu ce sacre au sein de l'équipe. Et pour ça, quoi de mieux que de recevoir celui qui a été désigné homme de la finale, Stéphane Parezedo, que l'on accueillera dans un instant. Stéphane Parezedo, 29 ans, 370 matchs avec les Bleus du Seven à son actif, 102 essais inscrits, dont un en finale face à la Grande-Bretagne lors du tournoi de Los Angeles. Salut Stéphane, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de l'invitation.
Alors on le disait dans la présentation, ça faisait 19 ans que les Bleus n'avaient pas remporté de tournoi. C'était en 2005 au stade Jean Bouin à Paris. Ouais. De ton côté, ça fait 10 ans que tu es dans cette équipe de France. Ce titre, du coup, on imagine vous l'attendiez plus que jamais, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est cool parce que ça vient ponctuer un peu toutes ces années de travail. Mais bon, on aurait bien voulu qu'il arrive un peu plus tôt. Mais il faut savoir être patient de temps en temps. Et 10 ans, je pense que ça, c'était déjà assez lent.
Après le match, tu le disais hein, d'ailleurs, ça y est, enfin, on nous parlera plus de Paris 2005. Donc c'est sûr que ça doit faire plaisir. Toi, en ce qui te concerne, tu as été désigné homme de la finale. Ça fait quoi quand tu reçois un tel titre ?
Bah, à vrai dire, je m'y attendais pas du tout. J'avoue que bon, c'est quand même assez récent qu'il y ait des titres comme ça. Généralement, c'était l'homme du tournoi. Là, c'est l'homme de la finale. Mais forcément, ça fait vraiment plaisir, surtout que voilà, c'était ma première victoire en finale. Donc, oui, c'est un titre personnel, mais ça. Le plus beau des titres que je conserverai, c'est justement le titre collectif de l'équipe qui gagne, quoi.
Ce titre, justement, vous le vivez avec une équipe qui, en tout cas, quand on regarde de l'extérieur, a l'air hyper soudée. Une équipe de fous, c'est ce que tu as dit plusieurs fois dans diverses interviews. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit vous qualifier, une équipe de fous ?
Ouais, je pense qu'on est vraiment une équipe de tarés et c'est ça qui fait un peu notre force, finalement. C'est un peu c'est une équipe dévergondée qui a peur de personne et ça vient notamment des jeunes joueurs qui sont bourrés de talent et qui ont vraiment pas honte de mettre 30 points à n'importe qui donc voilà, aujourd'hui l'équipe a grandi là-dessus et n'a pas à rougir face aux grandes équipes et c'est ce qui nous permet de gagner des tournois maintenant.
Justement, tu parlais de ces jeunes joueurs. Il y en a un sur lequel on voulait faire un petit focus avec toi. Si tu peux nous donner ton avis là-dessus, c'est Andy Timo. On en a un petit peu moins parlé avec l'arrivée d'Antoine, évidemment, dans cette équipe de France. Il débarque en février 2023, n'hésite pas à dire si je me trompe. Hein. Il est passé du 15 à Massy au 7 avec quand même une facilité assez déconcertante. Toi, ton avis déjà sur sa progression, comment tu l'as vu arriver et comment est-ce que tu le vois évoluer maintenant dans cette équipe de France ?
Alors Andy c'est un sujet à part parce que effectivement c'est un joueur qui est bourré de talent, qui sent le rugby, qui est très très fort au contact, qui est très technique, rapide aussi, endurant. Donc il a vraiment toutes les compétences pour être un très bon joueur à 7. Mais lors de sa venue, ses premières venues l'année dernière, Ça a été très très difficile de l'intégrer au sein du groupe. Je pense que ça a été l'un des joueurs le plus difficile à faire intégrer parce que c'est une tête brûlée, parce que il a un caractère très prononcé et au final on a eu quelques conflits au sein du groupe avec lui mais il est revenu cette saison avec une volonté de bien faire, une volonté de s'intégrer au sein du groupe, accepter un peu les règles du jeu au sein du groupe et le règlement, tu vois. Et aujourd'hui, il est presque irréprochable. Je dis presque parce que justement, j'ai encore en tête la saison dernière, mais cette année, il est irréprochable et on a vraiment un gros plaisir maintenant à jouer avec lui. Et maintenant, c'est juste essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour que son potentiel puisse éclater à 200%.
C'est un peu grâce à vous, grâce aux anciens qui êtes là depuis assez longtemps dans l'équipe, avec, on pense à Paulin Riva ou même toi, qui avait pu un peu canaliser ce trop-plein d'énergie.
Bah, c'est... comment dire ? En fait, nous, on a un système de parrainage, c'est-à-dire que dès qu'on a un nouveau joueur qui entre dans l'équipe, on attribue un parrain à ce nouveau joueur. Et du coup, dans l'occurrence, là, ça a été Bebop, donc William Iragua, qui vient de Massy aussi. Donc, ils se connaissaient un peu, et même s'ils ne sont pas de la même génération. Et du coup, ça a été, je pense que William a été d'une grande aide pour Andy et pour le groupe, justement, pour justement l'intégrer et faire en sorte que bah, il se sente un peu mieux et qu'il puisse apporter tout son talent à l'équipe, quoi.
Quand tu parlais d'intégration difficile, est-ce que ça a été plutôt sur le cadre extra-sportif avec un groupe qui est quand même déjà établi depuis plusieurs années, ou est-ce que c'était plutôt vraiment sur le terrain où il fallait assimiler ses préceptes du Seven, tout simplement?
Je dirais que c'est plus l'extra-sportif, c'est-à-dire que c'est beaucoup de retards accumulés, c'est ne pas accepter du coup la sanction des retards, puisqu'on a une sanction à chaque fois. Vous l'avez peut-être vu, bon, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste un tunnel avant l'entraînement, c'est de passer à quatre pattes entre les jambes des coéquipiers et on se prend une fessée par tout le monde du coup. Donc c'est assez rigolo, mais voilà, c'est quelque chose qu'il voulait pas passer dans le tunnel. Donc c'est des choses où vraiment il a eu un blocage et c'était essentiellement ça. Il y a eu beaucoup de retard et beaucoup de comment dire, il acceptait pas la critique et quand tu viens du 15 au 7, il faut que tu arrives à accepter la critique parce que le rugby à 7 est quand même assez différent du rugby à 15 et la façon de jouer est différente et du coup on a des habitudes qui sont mauvaises pour le 7. Donc voilà, c'est accepter la critique, les retards qui faisaient que c'était un peu compliqué avec Andy.
Alors il y en a un autre qui est arrivé dans votre équipe et qui essaye de s'intégrer lui aussi au sein de cette équipe en étant tout nouveau, c'est Antoine Dupont forcément, on en a énormément parlé. Ça a un peu braqué tous les projecteurs sur vous, sur votre équipe, surtout pendant ces deux derniers tournois. Est-ce que justement le fait que vous sentiez peut-être, déjà est-ce que vous sentiez qu'il y avait un engouement plus fort autour de vous? Et est-ce que le fait qu'il y ait un tel engouement, ça vous a un peu plus boosté pour ces tournois?
Effectivement, il y a l'engouement, on l'a senti venir. Il y a eu déjà sa prise de parole où il annonçait qu'il voulait faire les Jeux Olympiques. Il a annoncé sa venue, puis au final, il y a eu sa venue. Et on a vu l'évolution, on a vu les médias venir petit à petit. Et aujourd'hui, il est venu avec une horde de médias, ce qui n'est pas plus mal pour nous, même si ça nous rajoute une pression supplémentaire. Aujourd'hui, je pense qu'inconsciemment, le fait qu'Antoine Dupont soit dans l'effectif fait qu'on a tous envie d'élever notre niveau de jeu pour être à la hauteur d'un joueur aussi talentueux que lui. Donc je pense que ça n'a fait que mettre de la pression positive et aujourd'hui ça fait plaisir.
Et puis ça a fonctionné du coup parce que vous remportez le tournoi de Los Angeles pour la première fois depuis 19 ans forcément. On imagine que voilà, ça a eu un rôle quand même assez important. Et donc on disait juste avant, tu es un des historiques de cette équipe, tu es un peu un des cadres, un des leaders avec notamment Paulin Riva qu'on a eu dans un précédent podcast. Comment on gère au sein d'un groupe une arrivée telle que celle d'Antoine Dupont? Tu le disais, vous avez entendu dire qu'il voulait intégrer le Seven, qu'il voulait participer au jeu. Comment vous, d'un regard extérieur, vous avez géré cette arrivée-là?
On a eu le temps de se préparer, donc on s'est posé pas mal de questions. On a posé des questions aussi au staff qui était un peu plus informé que nous. Tout en restant concentré sur notre préparation, sur les tournois qui venaient. enfin voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et puis il faut dire que bah voilà, Antoine, c'est quand même un mec qui est adorable, qui est venu quand même sur la pointe des pieds, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de médias et d'agitation autour de sa venue. C'est quand même quelqu'un qui est introverti, qui va pas faire le show. Enfin, voilà, il est énormément dans le respect et aujourd'hui, bon, voilà, c'est très simple de l'intégrer dans un groupe comme le nôtre.
Et justement, avec Antoine, vous jouez au même poste, le poste de demi de mêlée. On imagine que cette concurrence, du coup, elle est plutôt saine. Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce que vous la vivez ensemble au niveau du groupe?
Il y a quand même beaucoup de concurrence dans l'équipe de France, là. Et comme tu dis, elles sont toutes saines. Et on a vraiment pour objectif, chaque joueur a pour mission de faire en sorte que l'équipe de France de rugby à 7 soit la plus performante pour cet événement de cet été. Enfin, voilà, on est conscient qu'on a chacun une place. C'est pour l'effectif, c'est pour l'équipe de France. L'équipe de France de rugby à 7 n'appartient à personne. Et c'est l'objectif, c'est vraiment d'exceller pour avoir une médaille olympique.
Est-ce que justement il y a plus de concurrence qu'avant, aujourd'hui?
Forcément un peu, mais en tout cas le groupe cette année tout au long de ce cycle de 4 ans, on a essayé beaucoup de joueurs, des joueurs de rugby à 15, etc. Et cette année, le staff a essayé de justement, pas fermer, mais se dire on a tels joueurs qui sont potentiellement sélectionnables pour les Jeux Olympiques. Il faut qu'on arrive à avoir l'équipe la plus performante. Donc il y a de la concurrence, mais ça reste sain et puis cadré par le staff, quoi.
Justement, pour reparler un petit peu de la jeunesse, on parlait d'Andy tout à l'heure et de cette concurrence-là. Est-ce que toi, tu penses, en tant que vieux briscard de cette équipe de France entre guillemets, que les jeunes qui sont en train de se succéder, qui sont en train de vous succéder justement à votre génération, est-ce que tu penses qu'ils sont formés avec cette polyvalence qui s'adapte très facilement au 7? Est-ce que ces jeunes qui viennent du 15, qui s'adaptent au 7, est-ce que c'est quelque chose qui se faisait moins avant ou qui est plus naturel maintenant, selon toi?
Oui, je pense que c'est quand même la formation qui a été construite avec France Développement, avec justement peut-être aussi le résultat de l'équipe de France, fait que les jeunes joueurs connaissent un peu plus le rugby à 7, le pratiquent peut-être un peu plus. Et du coup, comparativement aux fois où on avait des joueurs de rugby à 15 qui venaient à 7 il y a 10 ans, parfois on se retrouvait avec des joueurs qui n'avaient jamais joué à 7 et qui n'avaient aucune expérience. Et il fallait tout leur apprendre et on perdait un temps fou.
Alors que là, aujourd'hui, ils ont une vraie formation de sétistes, quoi.
Exactement. Exactement, c'est
oui,
ça.
Oui, donc ça aide à pouvoir faire des plus grandes performances par la suite et à forcément être un peu plus concurrentiel, on le disait. Alors, on l'a pas mal répété dans ce podcast.
Voilà.
Avec les autres équipes du circuit, c'est un peu la colonie de vacances après les matchs. Et même avant les matchs, vous logez tous au même hôtel. Vous vivez vraiment en communauté tout au long des différents tournois. Et vous êtes notamment beaucoup avec les Bleus ES. Comment est-ce qu'elles ont vécu votre titre? Parce qu'on le sait, on l'a notamment beaucoup évoqué dans ce podcast. Elles, leur graal et leur but ultime, c'est de décrocher l'or. Elles sont passées tout près à Vancouver en chutant en finale. Et pourtant, on l'a vu, elles étaient à fond derrière vous. On a vu des vidéos où, avant votre finale, elles vous ont encouragé, elles étaient à fond derrière vous. Comment vous avez perçu ça, vous, de votre côté? Est-ce qu'elles n'étaient pas trop frustrées de vous voir un peu jalouses, quoi, de vous voir en finale?
Non, elles étaient très, très contentes pour nous. Alors, comme tu l'as évoqué, c'est l'équipe féminine, elle était quand même beaucoup plus proche que nous. De gagner un tournoi et avant nous, parce que ça fait maintenant des années qu'elles font des finales, notamment à Tokyo, aux Jeux Olympiques, où elles finissent second. Donc voilà, je pense que ça leur pendait plus au nez qu'à nous. Après, voilà, quand t'es compétiteur, t'as besoin de ça. Et effectivement, si le résultat vient un peu avant chez le voisin, bah, y a toujours une forme de peut-être de jalousie. Alors après, il faut leur demander est-ce qu'il y a ça, mais je pense qu'elles étaient plus contentes pour nous que jalouses. Ça, c'est, je pense que ça, je me mouille pas de dire ça.
Il y a en plus cet objectif que vous avez tous les deux, justement, c'est de décrocher l'or à la maison à Paris. D'ici là, avant de penser au JO, c'est quoi l'objectif? Comment est-ce que vous pensez à construire ce succès-là, entre guillemets? Est-ce que c'est d'aller chercher d'autres médailles d'or d'ici les Jeux, par exemple?
Bien sûr, nous, cette année, l'objectif, c'était pas forcément de gagner un tournoi. Enfin, même si ça l'était, mais plus à court terme, on va dire. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et en fait, on a le championnat de cette année, on s'en sert pour préparer justement les Jeux Olympiques. Et si on arrive à gagner tout le reste des tournois qui arrivent, forcément, déjà mentalement, on abordera les Jeux Olympiques avec beaucoup plus de confiance. Ça enverra des signaux forts aux adversaires. Et en même temps, ça nous montrera qu'on est sur la bonne voie et qu'on aura nos chances pour atteindre notre objectif final.
Justement, en termes d'adversaires, la concurrence, elle est quand même assez rude avec toutes les équipes qui étaient quand même très très fortes ces dernières années, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, on les connaissait. Ce qu'on connaissait peut-être un peu moins par contre, c'est que c'est toutes ces équipes qui étaient dans le dernier carré au tournoi de Los Angeles. Donc évidemment, la France, et on avait aussi l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Irlande. C'est quoi le regard que tu portes sur ces équipes européennes qui sont en train d'émerger? Est-ce que c'est l'arrivée des JO qui les motive plus, qui crée une espèce d'effervescence autour de ces équipes-là? Comment est-ce que tu vois ça, toi?
Cette année, plus que jamais, franchement, le niveau du championnat et de chaque équipe est vraiment hétérogène. C'est-à-dire que c'en est bien l'exemple, ce tournoi de Los Angeles. C'est vraiment... N'importe quelle équipe peut battre n'importe qui c'est incroyable quoi. Aujourd'hui l'Espagne joue un jeu qui est hyper fort, où ils gardent le ballon pendant très longtemps, ils sont très endurants, ils sont assez techniques, ils sont très propres dans leur conservation. Les Irlandais, eux, arrivent notamment à conserver la balle, mais ont des rucks qui sont très difficilement disputables, très difficiles de leur voler des ballons. Enfin voilà, chaque équipe a leur spécificité et c'est très compliqué aujourd'hui de battre n'importe quelle équipe sur le championnat. Et c'est ce qui fait que le championnat est hyper intéressant cette année parce que aussi on arrive à la fin d'un cycle où toutes les équipes ont pu se roder durant 4 ans. Et là, tout le monde arrive au meilleur niveau pour les Jeux Olympiques et c'est hyper intéressant.
Ouais, ce qui reste donc 3 étapes d'ici les Jeux Olympiques. Hong Kong du 5 au 7 avril, Singapour du 3 au 5 mai, puis Madrid du 31 mai au 2 juin. Ça sera le dernier tournoi avant les Jeux. Et moi, j'avais une question à propos du tournoi de Hong Kong qui est un peu... D'un point de vue extérieur, le tournoi pour les supporters, on sait que c'est une ambiance absolument incroyable. Est-ce que vous aussi, vous le ressentez sur le terrain? Est-ce que c'est un tournoi un peu à part sur le circuit?
Ouais. Franchement, c'est une atmosphère que tu ressens dès que tu arrives dans l'enceinte du stade. Il y a quelque chose vraiment de très, très particulier. En fait, tu joues beaucoup le soir. Donc déjà c'est en nocturne, on n'a pas forcément l'habitude de ça. C'est une atmosphère qui est très humide, donc assez lourde. Les fans sont quand même très, très actifs dans les gradins, il y a beaucoup de déguisements, c'est très festif, mais en même temps c'est l'un des plus gros événements sportifs, même culturels à Hong Kong. Donc non, ça reste un moment de dingue là-bas.
Est-ce que justement, pour en revenir aux Jeux Olympiques, c'est un peu quelque chose auquel vous vous attendez aussi d'être porté par le public? Le fait que ce soit à la maison, il va y avoir une ambiance vraiment particulière, vous vous y attendez à ça?
Bien sûr. Bah déjà, ça va être chouette de pouvoir jouer devant la famille. Et puis après, bon, voilà, Stade de France, on n'a pas trop l'habitude de jouer là-bas, mais bon, va falloir l'apprendre. Et oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on attend, mais je pense qu'on ne se projette pas encore à ce point-là sur les Jeux Olympiques. On parle beaucoup du terrain, de comment il sera, mais de l'ambiance, etc. C'est pas encore au goût du jour. Donc ça, on va prendre le temps parce que c'est quelque chose qui peut nous faire monter la pression.
Justement, en termes de temps, c'est quoi le programme là, que vous avez jusqu'au prochain tournoi à Hong Kong ?
Alors là, on a une partie où on est en préparation physique autonome jusqu'à lundi. Et à partir de lundi, on intègre du coup l'INSEP pour un stage d'une semaine. Et ensuite, on va à Cap-Breton dans un autre centre d'entraînement où on fait une semaine avant de partir justement à Hong Kong.
Justement, j'avais une petite question pour tous ces spectateurs qui vont découvrir peut-être un peu le Seven avec les JO, les prochaines étapes, etc. En sachant que vous enchaînez plusieurs matchs par jour, avec parfois plusieurs heures entre les matchs, qu'est-ce qui se passe concrètement entre ces périodes-là, ou dans ces périodes-là justement où vous êtes entre les matchs? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des siestes, vous vous reposez? Est-ce que vous vous réchauffez? Est-ce que vous mangez? Est-ce que vous buvez? Comment ça se passe concrètement?
Eh bien, c'est les parties les plus importantes finalement d'un tournoi, où en fait, parfois on a 2 heures entre les matchs, parfois on en a 4. Et il faut savoir bien jongler avec ces heures et pas perdre de temps, parce que c'est des moments où finalement sur un tournoi complet ça peut être de la fatigue accumulée. Donc on a un protocole de récupération qui est tout le temps le même pour justement que ce soit bien carré. Et en fait dès qu'on sort du match, en fait on prend une première collation et puis enfin riche en protéines, puis après on va directement à la glace où là on reste à peu près 5 minutes dans des bains froids avec des glaçons dedans. Ensuite on retourne dans le salon de restauration pour faire une autre collation. Ça dépend si on a le temps, si on a 2 heures entre les matchs, on prend juste une petite barre céréalée, des fruits et basta. Et si on a un peu plus de temps, bon, on peut s'accorder, si on a faim, du blanc de poulet avec du riz, quelque chose un peu triste, mais voilà, qui va nous apporter un peu d'énergie pour continuer le tournoi. Et voilà, donc beaucoup d'hydratation. Et puis après, il y a un retour vidéo. Il y a un retour vidéo avec le coach où on analyse notre match et surtout le match à venir avec les points clés qu'on avait vus au fur et à mesure de la semaine.
C'est vraiment d'ailleurs une des particularités pour ceux qui suivent un peu plus souvent le rugby à 15. C'est vraiment ce qui différencie énormément aussi le Seven du rugby à 15. Et Antoine Dupont en parlait souvent justement dans les interviews d'après-match, où il y a vraiment une gestion qui est très différente entre chaque match, et c'est très intense quoi. Le rugby à 7, c'est très physique, très intense, parce que vous enchaînez quand même très rapidement. C'est quand même une préparation du coup qui est différente aussi, j'imagine, du rugby à 15.
Ouais, total. Bah, c'est déjà, on a un effectif qui est quand même plus restreint, donc c'est plus simple de faire une préparation qui est un peu plus pointue, un peu plus personnalisée. Donc ça, c'est quelque chose de super. Après, voilà, ça reste du rugby, donc on fait aussi de la musculation, on fait pas mal de terrain, et c'est vrai que quand on est sur le terrain, la préparation, elle se fait naturellement parce que on court beaucoup plus, parce que, enfin voilà, c'est parce que les passes sont plus longues, etc. Mais là-dessus, c'est souvent différent.
Il y a une dernière anecdote qu'on voulait évoquer avec toi à propos de ton papa. Il est photographe pour les équipes de France à 7. Il te suit à travers tous les tournois à Los Angeles. C'était son 75e tournoi. Et pour l'occasion, il a vu son fils décrocher l'or au plus près, on peut dire. On a vu d'ailleurs des images pleines d'émotions où à la fin du match, tu lui cours dans les bras.
Ouais. J'ai beaucoup de chance parce que depuis le début de ma carrière, mon père me suit un peu partout. Faut savoir qu'on joue quand même très souvent à l'étranger, aux quatre coins du monde. Et j'ai quand même beaucoup de chance qu'il puisse venir me supporter. Et au final, aujourd'hui, il fait partie des supporters numéro un. Et non, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et je suis très content d'avoir pu vivre ça avec lui et pouvoir le partager directement avec lui parce que c'est quelque chose qu'il attendait aussi énormément et voilà, donc bien sûr beaucoup d'émotions à ce moment-là.
Il y avait une toute petite chose qu'on voulait te demander juste avant de te laisser tranquille. Ce titre-là à Los Angeles, vous l'avez fêté comme il se doit.
Ouais. Ouais, on s'est pas raté là-dessus.
On n'aura pas d'anecdote sur une soirée ou un truc comme ça avant de partir ?
Oh, non, pas trop. Je pense pas, non. Mais il n'y a pas eu de... Enfin, le championnat n'est pas fini. Et voilà, il fallait rester aussi sérieux sur tout ce qui était logistique, transport, voyage, etc. Donc voilà, enfin... On est un peu sur notre petit nuage, mais il va falloir qu'on y redescende dès lundi parce que les entraînements reprennent et il reste encore trois tournois, dont un qui peut nous faire gagner le championnat. Ça pourrait être une belle chose à viser avant les Jeux Olympiques. Donc voilà, il faut rester un peu sérieux aussi là-dessus. Mais je vous cache pas qu'on l'a bien fêté et comme il se doit.
Merci beaucoup Stéphane Parezedo d'avoir été avec nous dans ce podcast spécial sur le rugby à 7. Merci à Arthur de m'avoir accompagné. On vous souhaite une bonne semaine. On reparlera très vite du rugby à 7, notamment avec ce tournoi à Hong Kong qui arrive très rapidement. D'ici là, portez-vous bien. Salut.
À bientôt.